19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Le gouvernement abandonne un projet à 7 milliards d'euros.
Il renonce à créer un quatrième terminal à l'aéroport de Roissy.
Satisfaction globale des écolos.
Les tests salivaires, ça y est, c'est parti. Ils seront très utiles, notamment pour les dépistages dans les écoles.
En Allemagne, face à la progression des variants, Angela Merkel choisit une stratégie bien différente de celle de la France. La chancelière prône l'extrême prudence et n'est absolument pas prête à lever les mesures de restriction.
Égalité des chances, Emmanuel Macron veut se réconcilier avec sa gauche. Il souhaite favoriser davantage la diversité, dit-il, pour l'accès aux prestigieuses écoles de l'administration.
Elle a passé 1000 jours et 1000 nuits en prison. Son crime, avoir osé conduire seule sa voiture. Libération en Arabie Saoudite de la prisonnière la plus célèbre du royaume. Et puis le foot, trois candidats en lice pour la présidence de la Fédération française, Noël Le Graët, Frédéric Thiriez et Michel Moulin. Trois profils très différents, nous dira Cyril Delamorinerie.
La météo, Anissa Haddadi, une journée enneigée avant un week-end ensoleillé enfin.
Oui, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes que les chutes de neige seront les plus importantes, avec plusieurs centimètres attendus demain dans le centre-ville de Lyon. Et vous avez raison, Julien, ce week-end, le soleil va dominer sur toute la France sans exception, avant un redout prévu semaine prochaine.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le gouvernement abandonne donc son projet d'agrandissement de l'aéroport international de Roissy, pas en phase avec la lutte contre le réchauffement climatique.
Chantier à 7 milliards d'euros. La création de ce quatrième terminal devait permettre d'accueillir beaucoup, beaucoup plus d'avions, Aurélien Fleureau.
Exactement, imaginez l'équivalent d'Orly, soit 32 millions de passagers en 2019, en plus à Roissy. Eh bien, c'était ça le Terminal 4, une extension de très grande ampleur basée sur des prévisions de croissance exponentielle du trafic aérien qui, avant la crise sanitaire, était censé doubler d'ici 2037. Cela aurait donné par exemple 500 mouvements d'avions supplémentaires chaque jour, un terminal flambant neuf qui aurait incarné l'aéroport du futur, qui aurait d'ailleurs été quasiment fait sur mesure pour Air France pour accompagner la montée en gamme de la compagnie, pour permettre à Roissy d'être le hub le plus prisé d'Europe et donc d'attirer des passagers, ce qui veut dire attirer de l'activité économique. Mais voilà, avec la chute spectaculaire et durable du trafic aérien, ce projet a été jugé obsolète par le gouvernement qui avait déjà laissé entendre il y a quelques mois qu'il faudrait réduire la voilure. Là, c'est radical, on arrête tout. Le groupe ADP doit désormais plancher sur un nouveau projet sans extension de transformation de la plateforme Paris-Charles de Gaulle en favorisant la transition écologique.
Aurélien Fleureau du service Éco d'Europe 1.
Alors les écologistes devraient se réjouir de cette nouvelle. Pourtant Greenpeace notamment estime que ce n'est pas un vrai abandon et qu'un projet d'agrandissement pourrait revenir sur le devant de la scène. Audrey Boëly est la porte-parole du collectif Non au Terminal 4 et elle est beaucoup plus optimiste.
On se réjouit de l'annonce de l'abandon du projet de Terminal 4 par le gouvernement. C'est sûr que c'est une très bonne nouvelle pour le climat. Ce qu'on demande maintenant au gouvernement, c'est un engagement ferme sur ce sujet. Et ça, le gouvernement peut le faire dans le cadre de la loi climat qui comporte un article sur l'interdiction des extensions d'aéroports, puisque là, pour l'instant, le gouvernement laisse la porte ouverte à un futur projet d'extension. Et donc, aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est un engagement sur l'interdiction des extensions d'aéroports en France via la loi climat.
La porte-parole du collectif Non au Terminal 4 avec Virginie Salmen.
Le coup d'envoi officiel des tests salivaires moins invasifs pour détecter les personnes positives au Covid.
Le gouvernement mise beaucoup sur ces tests, en particulier pour améliorer le dépistage dans les écoles. Il souhaite en réaliser 200 000 par semaine dès la rentrée à l'école, mais pas seulement. On pourra nous aussi en profiter. Mode d'emploi avec Cédric Carbonel de la Haute Autorité de Santé.
Ce prélèvement pourra être effectué soit au laboratoire de biologie médicale, soit à domicile, soit sur le site de dépistage. Si vous le faites à domicile, vous devrez très classiquement aller chercher le matériel pour pouvoir réaliser cet auto-prélèvement. Donc vous allez devoir saliver simplement dans le tube. On ne va pas vous demander des choses qui vont nécessiter soit de se racler la gorge, soit de tousser, soit gargarisme ou autre. Une simple salivation dans le tube, de manière très basique. Et vous pourrez donc le ramener au laboratoire.
Cédric Carbonel de la Haute Autorité de Santé avec Anne Le Gall. Tout à l'heure, Olivier Véran a redit son inquiétude concernant les variants, notamment le britannique, responsable d'une infection sur 4 ou 5 actuellement. Chaque semaine que nous gagnons sur ce variant est une semaine de respiration pour notre pays. Le nombre de nouvelles contaminations reste stable. La pression hospitalière qui est forte n'augmente pas. Concernant les variants sud-africains et brésiliens, ils circulent moins en France métropolitaine et c'est une bonne chose, dit Olivier Véran, car ils sont moins sensibles aux vaccins actuelles. Le ministre de la Santé qui a aussi évoqué le cas du département de la Moselle où l'incidence est plus élevée que la moyenne et où ont été détectés de nombreux cas de variants justement. S'il le fallait, dit-il, nous prendrons des mesures. Olivier Véran qui se rendra demain sur place en Moselle.
L'Allemagne à présent. L'Allemagne qui prolonge son confinement et choisit une stratégie inverse à celle de la France.
Avec la prolongation de la plupart des mesures en vigueur, alors que l'on précise que les nouvelles contaminations quotidiennes en Allemagne sont 2 à 3 fois moins nombreuses qu'en France.
Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin, où la chancelière, contrairement à Emmanuel Macron, est convaincue que ces mesures strictes sont nécessaires pour éviter une troisième vague.
Oui, et selon elle, la seule présence des virus mutants sur le territoire allemand indique qu'on est déjà entré dans une nouvelle phase critique de l'épidémie. Ces virus mutants représentent 12% des cas, a-t-on appris aujourd'hui en Allemagne. C'est le double de la semaine dernière. Or, comme ils se propagent plus vite que la souche initiale de la Covid, la seule solution pour contrôler l'épidémie, c'est de faire baisser rapidement le nombre total des nouvelles contaminations, a expliqué la chancelière hier avec son ton très clair de scientifique. Et il y a même des experts ici qui défendent maintenant une stratégie no-Covid. Hors de question de rouvrir les magasins, les restaurants ou espérer un retour de la vie culturelle tant que l'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants, est au-dessus de 10. Merkel, elle a fixé un objectif un peu plus haut, une incidence à 35 cas pour 100 000 habitants. Actuellement, ici en Allemagne, on en est à 64. À titre de comparaison, en France, l'incidence est actuellement au-dessus de 200. Et pour atteindre ces 35, l'Allemagne, eh bien, verrouille tout. Elle a annoncé ce soir qu'elle allait fermer ses frontières avec le Tyrol et la République tchèque, comme elle le fait déjà avec la Grande-Bretagne, le Portugal ou encore l'Afrique du Sud. Seule exception, en fait, après 2 mois sans école ici, à partir de la semaine prochaine, certains élèves pourront retourner en classe progressivement si la situation sanitaire le permet dans leur région.
Merci beaucoup Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en direct de Berlin. Ce soir, l'Organisation mondiale de la santé s'alarme. Les décès dus au Covid en Afrique, cette fois, ont augmenté de 40% en un mois. Le continent se bat contre de nouvelles variantes plus contagieuses. Pendant la première vague, l'Afrique avait été le continent le moins touché par la pandémie.
Permettre à quelques jeunes d'origine modeste ou venant des cités d'entrer à l'ENA et dans les grandes écoles de la fonction publique, c'est donc l'objectif d'Emmanuel Macron.
Oui, le chef de l'État était à Nantes aujourd'hui pour présenter ses mesures en faveur de l'égalité des chances, qui prévoit donc, entre autres, la création de 1000 classes prépa intégrées pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à accéder aux meilleures écoles.
Quand on a une jeunesse qui commence à se dire, en fonction de l'endroit où elle habite,
je sais pas si c'est lui qui l'annonce,
la famille à laquelle elle appartient, du nom qu'elle porte, de sa couleur de peau, etc., ceci n'est pas pour moi, alors on a un problème. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de ne pas être assigné à résidence, c'est-à-dire assigné au milieu social où on est né, à l'endroit où on est né, est très importante. Mais si on a envie d'en sortir et qu'on se dit simplement « ça n'est pas pour moi », parce qu'il en est, c'est déjà écrit, alors la République a un problème. Vous avez un rôle maintenant très important, parce que ça ne marche que par des modèles. La meilleure manière, au-delà de la transparence, de casser l'autocensure, c'est de bâtir des modèles. C'est de dire, en faisant réussir certaines et certains, on montre à d'autres qui sont dans leur famille, qui viennent de leur quartier, qu'ils peuvent se projeter parce qu'ils peuvent suivre le même parcours.
Emmanuel Macron à Nantes, au micro européen de Jean-Rémy Baudot.
19h08, on part à l'étranger en Birmanie où un 6e jour de mobilisation a eu lieu.
Plus de 200 personnes, souvent d'anciens cadres ou des dirigeants politiques, ont été interpellées. La répression s'intensifie. Condamnation unanime de la communauté internationale. Les Européens ont remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU un projet de résolution demandant la libération d'Aung San Suu Kyi et le rétablissement d'un gouvernement civil.
L'actualité internationale marquée aussi par une bonne nouvelle, la libération de cette fameuse militante féministe. La jeune femme de 31 ans avait été condamnée pour avoir osé conduire dans son pays, l'Arabie Saoudite, sans être accompagnée par un homme.
Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Elle est donc enfin sortie de prison, Loujin Al-Atloul, qui était le symbole de la lutte des femmes d'Arabie Saoudite pour leur émancipation. Il faut dire que son maintien en détention était devenu un vrai problème diplomatique pour l'image du royaume.
Ah bah c'était la preuve la plus flagrante d'abord de l'arbitraire absolu de la justice saoudienne. Rendez-vous compte qu'elle a quand même passé presque 3 ans en prison pour ce qui est un geste banal du quotidien partout ailleurs dans le monde. Elle a été condamnée à une peine de 5 ans et 8 mois dans une procédure d'exception normalement réservée à la lutte antiterroriste. Elle a été torturée et agressée sexuellement pendant son détention. On croit en rêver, mais c'est un vrai cauchemar. Et c'est également la démonstration limpide du degré d'hypocrisie du régime saoudien qui a finalement autoriser les femmes à conduire sans chaperon un mois après l'arrestation de Loujain Al-Hasloul, la grande réforme censée symboliser la libéralisation du royaume sous la houlette du jeune prince Mohamed Ben Salman, vous pensez qu'il l'aurait libéré à ce moment-là ? Eh bien, pas du tout, parce qu'en fait, l'enjeu de ce procès, c'était de décourager toute revendication autonome venue de la société qui est traitée comme un crime de lèse-majesté. Pour le nouveau monarque, les choses sont claires, modernisation ne rime en rien avec démocratisation.
Cette libération n'indique donc pas une libéralisation du royaume.
Alors, pas le moins du monde, hein. C'est juste une tentative de faire baisser la pression internationale, parce que la mobilisation a été extrêmement forte à l'étranger en faveur de Loujain Al-Hasloul. Mais le point de vue de la monarchie saoudienne, le coup de grâce est surtout venu de l'élection de Joe Biden aux États-Unis, qui, dès sa prise de fonction, a fait cesser tout soutien à l'intervention militaire du royaume au Yémen. Le prince Salman sait donc parfaitement que le rapport de force vient de brutalement s'inverser avec l'arrivée de ce nouveau président qui, à la différence de Donald Trump, ne couvrira plus ses outrances. Et il va, bien sûr, chercher à revenir en grâce. Donc la libération de Loujain Al-Hasloul, c'était un peu le premier pas de la parade nuptiale que vont maintenant danser les Saoudiens pour tenter de reconquérir les faveurs américaines.
Merci mon cher Didier. L'œil de Didier François, tous les soirs dans le journal de 19h.
En foot, le retour de la malédiction des huitièmes de finale. Sacré tuile pour le PSG. Le club devra se passer de Neymar pour son match de Ligue des Champions mardi face au Barça. Il souffre des adducteurs. Il est forfait pour au moins 4 semaines et il pourrait aussi rater le match retour.
Et puis toujours en foot, les candidats à la présidence de la Fédération française avaient jusqu'à ce soir pour se faire connaître.
Et au final, ils sont 3, Cyril de la Morinerie.
Le grand favori, encore une fois, c'est Noël Le Graët. Après une décennie à la tête de la fédération, l'actuel président vise un 4e mandat. À bientôt 80 ans, le Breton assure que son âge avancé ne l'empêche pas de veiller avec clairvoyance sur le football français.
Je constate qu'il y a peu de jeunes qui me suivent, c'est assez drôle. Quand j'ai des réunions un peu partout, des déplacements, je suis en pleine forme, je n'ai pas de problème intellectuel même pour le moment.
Son challenger est Frédéric Thirier. L'ancien président de la Ligue bénéficie de l'appui de plusieurs ex-internationaux. Luis Fernandez a été nommé président de son comité de soutien et défend le foot d'en bas.
Pour moi, le plus important, c'est d'aller dans le football amateur et être présent.
Troisième candidat inattendu, Michel Moulin. L'entrepreneur et ancien éphémère conseiller sportif du PSG estime que les dirigeants actuels sont déconnectés de la réalité.
Dès qu'on passe le périph, ça ne veut pas ce qui se passe. Quand vous entendez les dirigeants qui disent qu'il n'y a pas de racisme dans le football, ça devient très grave.
300 grands électeurs représentant le football amateur et professionnel voteront lors de l'élection qui aura lieu le samedi 13 mars prochain.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe.
C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle. Un petit coup d'œil au temps avec vous Anissa. Neige et verglas encore demain au programme. Hein. Prudence.
Ça va concerner les régions, Julien, qui se situent entre la Bretagne et les Alpes en passant par le Massif central. Nous avons demain plusieurs départements en vigilance orange, 22 à cette heure-ci. Alors, dès le début de la journée, entre la Bretagne et le Lyonnais, nous aurons des pluies verglaçantes. Et puis, un épisode important de neige est prévu pour demain sur le nord de l'Auvergne, le Mâconnais et le Lyonnais. On attend plusieurs centimètres de neige dans le centre-ville de Lyon et cela n'était pas arrivé depuis 2011, donc une dizaine d'années maintenant. Les températures, elles sont toujours très froides demain matin avec moins 10 à moins 2 degrés au nord de la Loire. On aura moins 10 à Strasbourg, moins 4 pour Paris, 0 à 9 degrés partout ailleurs. Et puis dans l'après-midi, comptez moins 2 à 15 degrés, encore une amplitude de 17 degrés hein, demain puisqu'on aura moins 2 à Belfort et 15 degrés à Nice. Le week-end, vous me le demandiez, Julien, le voici. Des bonnes nouvelles. Le week-end sera très ensoleillé sur quasiment tout le pays. On va pouvoir faire le plein de vitamine D. Mais il va falloir rester couvert parce que le froid persiste. C'est à partir de la semaine prochaine que ça va se radoucir.
Bien. Eh ben on attend avec impatience voilà. La semaine prochaine. Mais ça fait du bien, le froid.
Ça revigore.
Merci Anissa.
Europe 1. Écoutez le monde changer.